Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Lors de son récent déplacement au Kenya, le président français Emmanuel Macron a annoncé la signature de quelques contrats entre de grandes entreprises françaises de travaux publics et le gouvernement kényan. Parmi les réalisations annoncées, une autoroute au départ de Nairobi et sa gestion pendant 30 ans par une société hexagonale. Quand une entreprise privée construit et exploite une infrastructure pour le compte d'une collectivité, d'une région, d'un État, on parle souvent de partenariat public-privé, PPP. Trois initiales qu'on entend souvent quand il s'agit de convaincre que le financement sera indolore. Cela vaut pour les pays africains comme pour les pays européens ou l'Amérique latine. Mais est-ce si indolore que cela? Ces partenariats publics-privés sont-ils efficaces? Contribuent-ils à la meilleure gestion des finances publiques et au développement des pays émergents? Ou sont-ce des leurs? Nous allons voir cela avec nos trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Karine Staropoli.
Bonjour.
Karine Staropoli, vous êtes professeure associée à l'École d'économie de Paris, maître de conférences en sciences économiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes aussi directrice adjointe de la chaire économie des partenariats publics-privés. Vous êtes l'auteur d'une étude sur les smart cities, quelles relations publiques-privées pour rendre la ville plus intelligente, publiée par le think tank Terra Nova. Également avec nous dans cette émission, dans ce studio, Asiba Djemaoun. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Asiba Djemaoun, vous êtes coordinatrice des partenariats publics-privés au sein de l'Agence française de développement. Vous occupez cette fonction depuis environ un an auparavant. Vous avez travaillé sur cette question des PPP au ministère des Finances français à Bercy et dans des cabinets d'avocats internationaux. Je termine enfin ce premier tour de table par vous, Séverine Picard, bonjour.
Bonjour.
Séverine Picard, vous êtes conseillère politique principale à la commission syndicale consultative auprès de l'OCDE, un organisme qui représente 59 organisations syndicales des pays membres de l'OCDE. Dans cette émission, enfin, je vous précise que vous entendrez des reportages, bien sûr. D'abord à Paris avec Gabriel Maréchaux et Pauline Glaise, à Dakar avec William de Lesseux et à Santiago du Chili avec Justine Fontaine. On va commencer par définir ce dont on parle. Partenariat public-privé, est-ce que c'est un partenariat d'égal à égal? Est-ce qu'on parle de la même chose quand on est à Paris, à Dakar ou à Santiago du Chili? Alors je vais me tourner d'abord vers la professeure, Karine Staropoli. Qu'est-ce que c'est un partenariat public-privé?
Alors comme souvent dans ce type de terme très global, on peut donner plusieurs définitions d'un partenariat public-privé. Je pense qu'il est vraiment important de retenir le terme partenariat. C'est lui donner le plus de chances que ça réussisse entre un acteur public, vous l'avez dit, quel que soit le niveau, au niveau État, au niveau des collectivités territoriales, et des acteurs privés à qui l'opérateur, l'acteur public va déléguer la tâche de construire, d'exploiter, de maintenir et de financer un ouvrage, mais aussi plus généralement des services publics. Donc c'est quelque chose qui est entre l'arbitrage entre le faire et le faire faire, c'est-à-dire que l'acteur public demande à des opérateurs privés de faire pour lui pendant une durée qui est délimitée. Un ouvrage ou la gestion d'un service public. Il y a plusieurs véhicules juridiques qui peuvent rentrer dans cette catégorie de partenariat public-privé, et notamment ce qu'on distingue les concessions qui elles ont la particularité d'être rémunérées en partie ou totalement par les usagers, et les PPP au sens du tribunal de grande instance qu'on examinera.
Oui, dont on va parler tout à l'heure.
Où là, c'est la personne publique qui rémunérera l'opérateur privé selon des modalités qu'on sera amené à discuter.
On va bien différencier les choses. La concession, c'est par exemple certaines autoroutes françaises.
Voilà,
c'est qui ça. Ont été construites par des sociétés privées, mais exploitées par l'État, puis rendues au privé.
Exploitées aussi par ces sociétés privées.
Et pour lesquelles chaque usager privée paye sa quote-part lorsqu'il passe au péage.
Et ce prix fait l'objet d'une négociation, bien évidemment, entre l'État et les opérateurs privés. Et j'insiste aussi sur l'aspect préfinancement privé pour les PPP, au sens où l'opérateur privé arrive avec son financement à ses conditions à lui. On verra que c'est une partie des enjeux.
Séverine Picard, cette définition vous convient ?
Oui, tout à fait. Nous, on a une approche très large de la notion de PPP, puisque nous, il s'agit d'un toute forme de financement privé pour une mission de service public.
Toute forme, quelle qu'elle soit.
C'est comme ça qu'on approche le problème.
Alors, je me tourne vers la juriste de cette émission, Asiba Djemaoun. Vous êtes plutôt juriste. Est-ce que il y a des compléments d'informations, des détails que vous voulez apporter à ces définitions qui viennent d'être données?
Je pourrais rajouter que c'est d'abord un contrat de la commande publique. Ce n'est pas neutre. Ça a des conséquences en termes de responsabilité pour les autorités publiques. C'est bien sûr un contrat global qui combine des missions qui sont confiées aux partenaires, missions de financement, de conception, de réalisation, d'exploitation. C'est un transfert et un partage de risques. C'est aussi une rémunération, ça a été dit, qui va provenir selon le type de PPP, principalement des usagers pour les concessions ou principalement par les autorités publiques. C'est ce qu'on appelle le PPP à paiement public versus marché de partenariat à la française.
Vous venez de prononcer un mot qui est le risque, partage du risque. À quoi faites-vous allusion ?
Dans un partenariat, la caractéristique, c'est qu'on va transférer la maîtrise d'ouvrage, la personne publique va transférer la maîtrise d'ouvrage au partenaire, et les risques qui sont liés à ce transfert de cette maîtrise d'ouvrage public. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant toute cette phase de construction, le partenaire privé est responsable, prend tous les risques de construction, de conception, de construction, jusqu'à la mise à disposition de l'ouvrage. À ce moment-là, il est enfin rémunéré et il prend a posteriori le risque d'exploitation, sous réserve toutefois de quelques mesures de mitigation qui sont introduites dans le contrat. On en parlera peut-être.
Karine Staropoli, ça remonte à quand les partenariats publics-privés ? En tout cas, cette formulation PPP, c'est une invention de qui ? Quand ?
Alors, on peut, en règle générale, faire remonter ça au XVe siècle.
Mais maintenant,
dans l'époque moderne, on ramène ça à 1900, enfin, dans les années 90, et notamment en Grande-Bretagne, avec les PFI, Private Finance Initiative, qui représentaient toutes ces caractéristiques de transfert des risques, de contrat global et de préfinancement.
Alors, la Grande-Bretagne, c'est la City, ce sont des gouvernements très libéraux, souvent, dans ces dernières années, depuis Margaret Thatcher et autres, même sous Tony Blair. Est-ce que ces PPP sont, selon vous, Séverine Picard, l'expression d'un capitalisme débridé, de l'entrée du capital dans la sphère publique ?
Nous sommes très critiques à l'égard des conséquences.
Vous, c'est-à-dire les organisations syndicales auprès de l'OCDE ?
De manière générale, le mouvement syndical international est très critique par rapport aux conséquences de ces PPP sur le développement, les conséquences sur les droits de l'homme, puisqu'on parle de services publics essentiels, et j'aurais probablement dû commencer par ça, les conséquences sur l'emploi, tant en termes de nombre d'emplois que de qualité d'emploi également. Donc nous sommes extrêmement critiques puisque on considère que très souvent les PPP font passer le profit privé du partenaire privé devant l'intérêt général du partenaire public qui est l'État.
Alors on va prendre un premier exemple à Paris. L'un des dossiers les plus importants de partenariat public-privé de ces dernières années, c'est le nouveau palais de justice, un bâtiment construit à la périphérie de Paris pour un coût de près de 3 milliards d'euros pour y regrouper les services hier dispersés dans toute la capitale. Et en particulier le TGI, le tribunal de grande instance. Cet imposant bâtiment, fruit d'un partenariat public-privé, a été inauguré il y a tout juste un an et il ne fait pas que des heureux. C'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Gabriel Maréchaux.
C'est au départ un projet ambitieux, rassembler 46 services de la justice parisienne dans une immense tour de verre. Mais sa situation périphérique a tout de suite déplu à beaucoup d'avocats comme Maître Benestine.
Ce qui nous a mobilisés, c'est vraiment la volonté d'éloigner les personnes et surtout l'insuffisance des transports en commun.
Quand ils ont voulu s'opposer à cette décision, ils se sont retrouvés nez à nez avec un contrat de partenariat public-privé qui les étonne.
Le recours à un PPP n'était absolument pas justifié. Les conditions sur la législation française, c'est la complexité. Il faut que l'administration ne soit pas en elle-même en capacité de construire et d'agir. Or, comme vous le savez, je pense que ça fait quelques siècles que nous construisons des palais de justice en France.
Avant même que le projet commence, l'architecte Bernard Plattner, collaborateur de Renzo Piano en charge du projet, avait lui aussi entendu parler du fameux PPP.
Tout le monde nous a fait peur au début en disant « mais tu vas voir, ça va être horrible et vous allez vous faire manger par les grands » puisqu'il n'y a que deux ou trois éventuellement grandes entreprises qui sont en mesure de réaliser ce type d'ouvrage et d'engagement gigantesque.
9 ans plus tard, la tour est sortie de terre et l'architecte trouve des avantages au partenariat.
L'entreprise assume énormément de responsabilités sur le résultat de délais et de coûts, puisqu'il a signé un contrat avec l'État avec un coût fixe. Le bâtiment, ça coûtera tant. Et le bâtiment a coûté tant.
Mais se mettre d'accord sur tout dans les 18 premiers mois du projet, avant même de poser la première pierre, a été source d'anxiété pour l'architecte.
C'est très difficile pour un architecte, pour les ingénieurs aussi, puisque tout ne peut pas être développé dans ces 18 mois, loin de là. Donc il y a un côté risque, il y a un côté pari.
Un bilan tout en nuances, donc, avec des pour et des contre, c'est aussi celui de Jean-Paul Jean. Ce président de chambre à la Cour de cassation a été missionné en 2012 par le nouveau gouvernement Hérault pour un rapport sur le projet dont le coût inquiète alors beaucoup. Il commence par rappeler que les contrats classiques sont aussi sujets à certaines critiques.
On sait très bien que sur les marchés publics français, notamment sur les palais de justice, les délais avaient été extrêmement longs, avec beaucoup de malfaçons. Et quand on regarde le coût initial tel que prévu et le coût à l'arrivée, c'est considérable.
Mais si les contrats publics classiques posent question, les partenariats publics-privés en suscitent d'autres.
Ce dont je me suis rendu compte, c'est lorsqu'un projet est mal conçu à l'origine ou a besoin de beaucoup d'adaptabilité, on va payer très très cher les années qui suivent, parce que dès qu'il y a une nouveauté, c'est le tiroir caisse, il faut payer pour toute adaptation. Donc vous imaginez les questions de sécurité, les questions d'aménagement de salles ou d'autres.
Un projet coûteux, mais dont l'abandon coûterait tout aussi cher.
Il y a une clause pénale extrêmement importante, en dizaines de millions d'euros. Donc si on résiliait le contrat, à la fois il fallait payer tout ce qui avait été engagé et ne rien avoir.
Au nom de la continuité de l'État, Jean-Paul Jean a fini son rapport sur un avis favorable. Le palais coûte désormais 86 millions d'euros de loyer par an au ministère, qui a abandonné les partenariats publics-privés pour les constructions d'établissements pénitentiaires à venir.
Un reportage signé Gabriel Maréchaud dans les alentours de ce palais de justice parisien. Karine Staropoli, pourquoi un État aussi fort, aussi ancien que l'État français a-t-il besoin de s'associer avec des intérêts privés pour construire un tel bâtiment ?
Des intérêts privés, c'est surtout des compétences et de l'expertise. De toute manière, si l'État n'avait pas fait appel dans le cadre d'un PPP, il aurait fait appel dans le cadre d'un contrat de type loi MOP, où il aurait gardé la maîtrise d'ouvrage public à ces mêmes opérateurs, puisque l'État n'a pas un corps de bâtisseurs suffisant pour construire ce type d'ouvrage particulièrement complexe. Ça a été rappelé, c'était une des raisons pour lesquelles on a choisi ce type de véhicule juridique. Il y en avait deux autres très importants. L'urgence, il y avait quand même une urgence à agrandir et à se doter d'un tribunal de grande instance
moderne.
Et puis surtout l'efficacité économique. Et là, il y a eu des évaluations qui ont été réalisées et qui ont pu démontrer que les performances qui seraient atteintes sous la forme d'un PPP permettraient de tirer une valeur économique à ce bâtiment. Donc c'est coûteux. On sait que c'est coûteux parce qu'on a des exigences de performance.
Mais c'est coûteux pour qui ?
C'est coûteux pour l'acteur public, bien évidemment, mais c'est d'autant plus coûteux qu'il transfère des risques, et il faut bien rémunérer ce transfert des risques. C'est coûteux aussi puisque le préfinancement est privé et que donc il faut rémunérer cet avantage que procurent les financeurs. Mais l'idée, et les Britanniques là-dessus ont engagé cette démarche-là, c'est que si on le fait, c'est qu'on en retire une valeur qui est supérieure au coût in fine.
Assibat Gemaoun, est-ce que le risque est compensé par l'efficacité dans ce genre de projet ? Jean-Paul Jean, qu'on entendait, et l'architecte avant, dans le reportage de Gabriel Maréchaud, disait le coût a été maîtrisé, alors que souvent, dans les projets publics, il y a des dépassements énormes qui coûtent très cher. Est-ce que c'est un des avantages de ces partenariats ?
Oui, en effet. Alors, les coûts sont maîtrisés à la condition que en amont, ces projets aient fait l'objet d'une préparation, d'études, d'une étude démontrant notamment que les avantages offerts par le projet réalisé en PPP justifient leur coût. Par ailleurs, une étude de soutenabilité budgétaire, s'assurer que ces coûts qui sont justifiés par les avantages du projet sont soutenables pour les autorités publiques.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que un PPP, ce n'est pas gratuit, tout le monde l'a bien compris. Ça coûte parce que, cela a été dit, hein, on transfère des risques. On exige en contrepartie l'atteinte de performance. On a sanctuarisé la maintenance. Et de cette façon, la personne publique achète de la performance. Elle achète donc une autre manière de faire son infrastructure. Et oui, il faut s'assurer donc que la contrepartie financière supportée par l'autorité publique sera soutenable.
En l'occurrence, dans ce projet-là, l'État paye tous les ans 86 millions d'euros à Bouygues, qui est le constructeur, donc dans ce partenariat public-privé, pour la location du bâtiment.
Ça regroupe à la fois le remboursement des travaux qui ont été réalisés et bien réalisés si on apprécie cette architecture, mais le fait est que le bâtiment a été livré en temps et en heure, compte tenu des tergiversations côté personne publique, parce qu'il y a quand même eu aussi beaucoup d'aléas au début du contrat. Et puis c'est aussi une façon de sanctuariser les dépenses de maintenance. On sait que les personnes publiques une fois qu'elles sont, qu'elles doivent maintenir et entretenir leurs ouvrages, si elles estiment qu'il y a d'autres choses qui doivent passer en priorité, eh bien, elles vont décaler des travaux et retarder la mise en œuvre de ces travaux-là. Et ça, c'est quand même un des problèmes des bâtiments publics en général. Les PPP sont vus comme une façon de effectivement sanctuariser ces dépenses-là, puisqu'on s'est engagé à rembourser l'opérateur qui assure la maintenance dans les faits et l'entretien. Le gros entretien, notamment de ce type d'ouvrage, régulièrement sur une durée de 30 ans. Et à l'issue de ces 30 ans, l'État récupérera un bâtiment qui, compte tenu des engagements contractuels qui ont été pris par l'opérateur privé, lui permettront de valoriser son patrimoine et son bâtiment.
Alors Séverine Picard, côté syndical, est-ce qu'on a un regard, une critique ou pas, ou qu'on approuve ce genre de démarche qui a été faite, par exemple, pour le nouveau tribunal parisien ?
Oui, donc moi je vais fortement nuancer les propos des deux personnes qui sont passées avant moi. Nous avons des doutes considérables sur la performance de ce type de partenariat. On parle d'efficacité économique, on parle de performance quand on parle d'acteurs privés, mais performance selon quels critères, selon quels indicateurs? Donc on parle bien d'entreprises privées, donc la performance c'est la rentabilité à court terme. Et la rentabilité à court terme, ça passe par quoi? Ça passe par des suppressions d'emplois, par des emplois de plus en plus précaires. Ça passe aussi par un service offert aux usagers qui est moindre. Un service où on cherche à économiser et à rentabiliser le plus possible. Donc l'année dernière, le rapporteur des Nations Unies pour les droits de l'homme, donc Philip Alston, a publié un rapport spécifiquement focalisé sur les questions des partenariats publics-privés, dans lequel il emploie des mots très durs en disant que ce type de partenariat pénalise les couches les plus défavorisées de la population. C'est-à-dire que les usagers les plus pauvres ont moins accès à ce type de service public. Performance, en ce qui concerne les coûts, moi je vais employer un terme tout simple, hein, c'est un loyer. L'État paye un loyer à cette entreprise privée. Est-ce qu'on est en mesure d'avoir une corrélation entre le montant du loyer et le service rendu? Ça, je ne trouve nulle part non plus. Donc, je vais encore citer un rapport du FMI, du Fonds monétaire international, qui n'est pas un fonds que je cite d'habitude, étant un fonds plutôt connu pour ses approches assez libérales. En ce qui concerne les PPP, le FMI dit très clairement que lorsque l'État avait des difficultés à gérer, à trouver les finances pour gérer un service public, ce n'est pas le PPP qui va arranger la situation. Il aura des difficultés également après. Donc, c'est une question de performance, mais la performance pour qui? Où vont les gains?
Karine Staropoli, qu'est-ce que vous répondez à cette objection?
C'est une objection effectivement qui est souvent avancée. Les critères de performance qui figurent dans les contrats C'est des choses très très précises. Ça va être des performances environnementales en termes de taux d'émission de gaz à effet de serre, en termes d'économie d'énergie, en termes de des choses beaucoup plus techniques sur l'utilisation des bâtiments, des enjeux de sécurité. Donc on va avoir vraiment des critères de performance. C'est l'intérêt. Alors maintenant, c'est ça aussi qui coûte cher, puisqu'à partir du moment où on s'engage à respecter ces critères-là, forcément, on est obligé d'y mettre les moyens techniques, humains, et donc ça va coûter cher. Mais je pense vraiment que s'il y a quelque chose d'important dans les PPP, c'est bien cet aspect performantiel qui est la possibilité d'inscrire dans les contrats des performances mesurables par définition, puisque sinon ça va pas faire l'objet de clauses de performance. Et donc au contraire, c'est un des arguments en faveur de ce type de contrat, de pouvoir s'engager sur des performances très précises.
On va continuer cette discussion. Sibat Djemaoun, je vous donnerai la parole après. Ce nouvel exemple de partenariat public-privé avec ce qui se prépare à la gare du Nord, l'une des principales infrastructures ferroviaires parisiennes. La gare va faire peau neuve. Elle doit être transformée à l'horizon 2024 pour les JO de Paris. Et pour cela, la SNCF a fait appel à des fonds privés. Un reportage éco d'ici éco d'ailleurs, signé Pauline Glaise.
Paris Nord, attention à la marche en descendant du train.
Un nouveau terminal pour les départs, des espaces de déplacement multipliés par 3, plus de commerces et de lieux dédiés aux loisirs, près de 8000 m² d'espace vert en toiture. La gare du Nord doit être transfigurée, mais cela a un coût, 600 millions d'euros. Un coût qui ne devrait pas plomber les finances de la société de chemin de fer, explique Stéphane Cougnon, directeur du programme de la gare du Nord à SNCF Gare et Connexion.
La SNCF met une part du capital très très minime dans le dispositif. C'est Citrus qui, de façon plus que substantielle, porte le financement de cette opération.
Citrus, c'est la branche immobilière du groupe Auchan. Dans la gare, l'idée ne choque pas Valérie.
L'argent public, maintenant, bon, on veut diminuer, donc on appelle au privé. De toute façon, il faut améliorer les conditions de circulation. Donc bon, il faut trouver l'argent où il est.
Victor Bass aime venir sur la plateforme des départs de l'Eurostar pour observer d'en haut le ballet des voyageurs. Et cet étudiant et comédien n'est pas du même avis.
Moi, je suis plutôt contre l'idée de privatiser les espaces publics tels que les gares, notamment par un groupe qui me paraît peu à même d'offrir un service public, ce que pour moi devrait être une gare.
Stéphane Cougnon s'inscrit en faux.
C'est absolument pas une privatisation de la gare. Dans quelle mesure la SNCF sera propriétaire de sa gare? Elle le restera à 100%. C'est-à-dire que le contrat, vous avez utilisé le terme de partenariat public-privé, ça y ressemble. C'est un contrat de concession que SNCF Gare et Connexion va passer à une société de projet dont elle sera elle-même actionnaire à 34%.
Mais il n'y a pas que le principe même d'un partenariat qui chagrine Victor Bass.
L'aspect public-privé, pour moi, c'est une sorte de cheval de Troie pour créer des espaces commerciaux qui eux-mêmes ne sont que des sortes d'aspirateurs à profit pour ensuite aller nourrir le groupe Liez, le groupe Auchan.
Stéphane Cougnon le promet, c'est et cela restera avant tout une gare.
C'est avant tout un projet de transformation d'une gare, de désaturation de la gare. On a été très précis dans le programme fonctionnel de la vision que nous avons pour cette gare en 2024. Ensuite, les répondants à l'appel d'offres sont venus en fait boucher les trous pour proposer une programmation additionnelle.
Au terme de la concession, l'ensemble des espaces qui auront accueilli services et commerces reviendra dans le giron de la SNCF, mais elle devra attendre plus de 40 ans pour cela.
C'est Écho d'ici Écho d'ailleurs sur RFI, un reportage de Pauline Glaise à la Gare du Nord. Nous parlons partenariat public-privé avec trois invités, Sibat Djemaoun de l'Agence française de développement, Séverine Picard, conseillère politique principale à la commission syndicale consultative auprès de l'OCDE, et Karine Staropoli, professeure associée à l'école d'économie de Paris. Alors Karine Staropoli, je vous voyais prendre force note. Ce reportage, est-ce qu'il est particulièrement signifiant dans ce contexte des partenariats publics-privés? Est-ce que cette gare du Nord, c'est un objet d'étude particulier?
Alors effectivement, on a entendu les arguments habituels. Je tiens quand même à souligner, ça a été évoqué, c'est que c'est une forme juridique encore un petit peu différente puisqu'il s'agit d'une CEMOP, c'est-à-dire une société d'économie mixte à opération unique, où, comme ça a été précisé, la SNCF va, est actionnaire à hauteur de 34% dans cette société.
Toujours est-il qu'on confie à un entrepreneur privé la charge d'exécuter des travaux pour une personne publique.
Certes, Mais une fois encore, de quels travaux parle-t-on ? Si c'est construire un bâtiment, il faut confier ça à quelqu'un qui sait construire des bâtiments. Si c'est exploiter des boutiques, proposer des nouveaux services, faire de l'achalandage, là encore, il faut s'adresser à des professionnels des boutiques. Or, la SNCF, même Gares et Connexions, a d'autres compétences et préfère s'associer à un opérateur privé spécialisé.
C'est Badjemaoun, oui.
Oui, une réaction à l'observation selon laquelle les PPP seraient des privatisations. Non, les PPP, ce n'est pas une privatisation, ça reste un contrat de la commande publique, les personnes publiques restent les autorités organisatrices du service et elles ne se dessaisissent pas. On change de mode de faire, on fait faire et on doit être en capacité d'avoir l'expertise en interne pour pouvoir contrôler justement les performances qui ont été confiées. Donc,
mais est-ce que la puissance publique, est-ce que la SNCF, est-ce que l'État a les capacités techniques, à la technicité pour contrôler toutes ces constructions, oui. Est-ce qu'il a le savoir-faire? Alors, parce qu'il fait faire, mais est-ce qu'il a le savoir-faire à Sibadjou?
C'est tout le sujet. Alors, bien sûr, nos grands ministères sectoriels ont la capacité technique pour contrôler. C'est différent dans les pays de nos interventions, de l'Agence française de développement. Mais je dirais aussi que les petites collectivités territoriales françaises ont également besoin de renforcement de capacités pour pouvoir effectivement exercer leur nouvelle mission qui consiste à contrôler au lieu de faire.
Séverine Picard, sur cette capacité des États européens même à contrôler ce qui est fait.
En ce qui concerne, pour reprendre ce que disait Madame Staropoli, c'est pas l'État qui va construire une gare ou une prison ou un hôpital, on est bien d'accord. Mais est-ce que le PPP est la seule manière de procéder à cette construction ? Non. Il y a d'autres possibilités où on laisse plus de place à l'État, où l'État reste dans la cabine de pilotage, l'État reste derrière le volant. Donc de toute façon, on doit passer par une passation de marché public, où on va effectivement chercher l'entreprise privée qui est la plus à même de remplir cette mission. Ça ne signifie pas pour autant qu'on doit, en tant qu'État, laisser toute la gestion, toute la politique, à ces personnes privées. Et c'est exactement ça que fait le PPP. C'est-à-dire qu'il y a une mainmise du partenaire privé sur le pilotage, sur la conduite du projet. Dans la mesure où on est, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de performance avec une rentabilité à court terme, ça a des implications drastiques sur l'emploi et ça a des implications sur la qualité du service. On a cité le Royaume-Uni tout à l'heure comme étant un petit peu à l'origine de ce type de private finance initiative. Au Royaume-Uni, on a cessé les PPP. Au Royaume-Uni, on est dans une période où on arrête, on évalue et on repense le système de partenariat de finance de services publics parce que ça ne fonctionne pas, parce que l'impact sur les usagers est catastrophique.
Il y a un rapport de la Cour des comptes européenne, qui est une structure de l'Union européenne, qui est extrêmement critique de ces partenariats, Karine Staropoli. Qu'est-ce que dit ce rapport ?
Effectivement, les critiques sont nombreuses. Le National Audit Office a, là où ils ont eu, particulièrement en Grande-Bretagne, une grande culture de l'évaluation, ça permet de faire comme ça très régulièrement des bilans. Donc les critiques sont souvent recevables, que ce soit sur le caractère oligopolistique, mais quelque part forcé de ce type de
c'est-à-dire structure. C'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes grandes
Exactement,
entreprises
mais
qu'ils
pour
font.
Pouvoir construire une gare et aménager et assurer la maintenance, c'est forcément ce type d'opérateur. Donc après, il faut être vigilant sur les conditions de mise en concurrence de ce type de projet.
Mais quand même, une structure comme la Cour des comptes européenne soit critique et démolisse, en fait,
Après, il faut aussi regarder sur quoi portent les critiques. Et les critiques portent aussi beaucoup sur les personnes publiques qui, justement, ont eu tendance à se dire « je me déleste de tout ça, j'évacue les problèmes vis-à-vis aussi, vous l'évoquiez, de l'emploi. Je pense que c'est quelque chose d'important. » Je lâche l'affaire pendant 30 ans et voilà, sans prendre trop de précautions. Aujourd'hui, comme l'a dit Asiba, on sait que il faut absolument conserver une maîtrise des compétences et aujourd'hui la complexité, on le voit avec le sujet des smart cities où il y a beaucoup d'enjeux de complexité liés à l'utilisation des données. Il faut absolument que les acteurs publics gardent le contrôle et les PPP normalement le permettent sur un certain nombre de compétences pour pouvoir contrôler et surveiller les performances.
Ah, c'est Badje Maoun.
Oui, quand même, ce rapport de la Cour des comptes mettait en avant des retards, des augmentations de coûts, une sous-utilisation imputable à une mauvaise planification et préparation des projets par les autorités publiques. Et c'est ce qui est intéressant dans ce rapport. Il ne dit pas que l'outil est mauvais, il dit... Les autorités publiques, au fond, oublient qu'il s'agit d'un contrat de la commande publique et que leur responsabilité première est de définir le besoin. Et que, en cours d'exécution de contrat, on ne revient pas sur la définition du besoin qui a été le postulat de départ de toute la construction juridico-financière du projet. Je voudrais de nouveau réinsister sur le fait que cette responsabilité publique de bien préparer son projet, de bien définir son besoin, est la clé de succès de ce type de projet.
Alors, on a vu ce qui se passait dans nos pays développés européens. On va partir maintenant un peu sur votre terrain, sur le terrain de l'Agence française de développement, Assi Badje Maoun. Dans les pays plus pauvres, on a aussi recours à ces partenariats. À Dakar, au Sénégal, une autoroute a été construite sur ce modèle économique. C'est l'autoroute dite de l'avenir qui relie la capitale à l'aéroport international de Dakar. Infrastructure réalisée par la filiale locale du groupe français Eiffage, la Senac. Le premier tronçon a été livré en août 2013, mais pour l'emprunter, il faut s'acquitter d'un péage. C'est un reportage Éco-d'ici-Éco d'ailleurs, signé William Delesseux à Dakar.
Bolob Dao pousse la porte qui donne sur les voies du péage de Pékin Nord.
Comment ça va ?
Le responsable du site est confiant. Pour l'instant, la bretelle n'est pas saturée.
Alors là, on a trois guichets. Deux en manuel, c'est-à-dire un mix. Et une dernière en automatique, exclusivement automatique.
L'homme doit gérer le flux de voitures et d'autres cars rapides qui passent chaque jour les barrières.
Ce qu'il faut réussir, c'est minimiser au maximum le temps d'attente. Tout faire pour qu'il n'y ait pas de clients agacés, de clients mécontents. Donc on fait tout pour ne pas avoir d'incidents avec les clients. Et du coup, si tout se passe bien, il n'y a aucun problème, ça roule très bien. Merci.
Sur l'ordinateur, devant chaque agent du péage, s'affichent des objectifs chiffrés. Il faut faire passer le plus de voitures en temps limité. Pour aller de Dakar à l'aéroport, il faut compter 2000 francs CFA, un peu plus de 3 euros. De quoi agacer certains clients.
Ça nous coûte une fortune. C'est un petit peu cher quand même, je trouve. L'autoroute est chère quand même pour les Sénégalais par rapport au pouvoir d'achat. Si l'État... Senac peut faire un petit effort par rapport au truc, ça arrangerait bien les populations.
Et les embouteillages aussi. On paye et on tape des embouteillages. Oui, c'est pas normal ça.
C'est pas normal.
Il fallait faire 45 minutes maximum pour arriver en ville. Ça permet d'aller plus vite. Ça nous permet de gagner du temps. Voilà. Et comme on dit, le temps c'est de l'argent.
Du temps de gagner aussi pendant la construction, d'après Cher Diouf, secrétaire général de l'entreprise.
C'est un des avantages du partenariat public-privé parce qu'on fait supporter en fait les risques liés à la conception, à la construction, à l'opérateur privé. Celui-ci est censé remettre l'ouvrage dans les délais qui lui sont fixés contractuellement, ce qui a été notre cas. Ça, c'est l'un des avantages qu'il ne faut pas négliger quand on sait que dans notre contexte sénégalais, les projets ont du mal à aboutir dans les délais.
Eiffage Senac a financé plus de 40% des travaux. Le reste a été pris en charge par l'État sénégalais. En tout, 135 milliards de francs CFA, plus de 200 millions d'euros. L'opération est rentable pour la filiale qui ne souhaite pas communiquer son chiffre d'affaires.
On ne pourra le comparer à rien d'autre, donc je pense que c'est pas forcément un élément qu'il faut communiquer, qu'il faut divulguer, c'est pas l'élément le plus important.
Donc je ne vous donnerai pas le chiffre d'affaires.
Parce que ça ne sert pas à grand chose de le communiquer, à mon avis.
Merci.
En 2018, le nombre de véhicules sur l'autoroute a augmenté. 40% de transactions supplémentaires ont été effectuées au péage d'Eiffage Sénégal.
Un reportage à Dakar signé William Delesseux dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons partenariat public-privé avec trois invités. Assi Badje Maoun de l'Agence française de développement, Séverine Picard, conseillère politique principale à la commission syndicale consultative auprès de l'OCDE, et Karine Staropoli, professeure associée à l'école d'économie de Paris, maître de conf aussi à Paris, un Panthéon, Sorbonne. Assi Badje Maoun, est-ce que les partenariats publics-privés dans ces pays africains sont de bons outils de développement ?
Ils peuvent être un bon outil de développement si des prérequis ont bien été mis en place. La préparation, je l'ai dit...
Je vous sens dubitative.
Pardon, pas du tout.
Non,
il faut. Non. Si les prérequis sont mis en place, c'est-à-dire préparer les projets, s'assurer. Je dirais que on est quand même dans des pays où la situation budgétaire, les ressources budgétaires et ne permettent pas finalement de financer le gap des infrastructures structurantes nécessaires à ces économies et à la satisfaction des besoins des populations. Voilà, ce n'est pas possible. Il faut donc penser à mobiliser le secteur privé pour financer ces infrastructures. Donc ça, c'est un postulat. Et le second point, c'est oui, faire des PPP, mais pas n'importe quel projet, pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Pas n'importe quel projet, il faut s'assurer, et c'est d'autant plus vrai dans nos pays d'intervention, qu'il présente une utilité économique et sociale pour la collectivité et un bilan environnemental positif. Pas n'importe comment, ces fameuses études de préparation, de faisabilité, pas n'importe quel prix. En effet, on a eu un exemple d'un usager qui trouve que c'est encore cher. Effectivement, le niveau d'accessibilité sociale du prix est un vrai sujet qui s'appréhende au moment des études de faisabilité. Et tout l'enjeu de ces PPP, c'est de trouver cet équilibre juste entre l'intérêt général, permettre un accès à un prix accessible, si je puis dire, aux usagers, à un service de qualité, mais aussi maintenir la rentabilité du projet.
Séverine Picard, est-ce que vous, dans les pays émergents, dans les pays africains, on vient de voir un exemple à Dakar au Sénégal, vous soutenez ces partenariats publics-privés? Est-ce que les organisations syndicales que vous représentez à ce micro ont un point de vue positif sur le rôle de ces PPP dans le développement des pays africains en particulier, en l'occurrence?
Nous sommes conscients du besoin de financement de ces pays. Par contre, nous sommes extrêmement sceptiques, encore une fois, sur l'impact des PPP tels que nous les connaissons aujourd'hui. Tout ce que vous décriviez, Madame Djemaoun, en termes de PPP idéal, évidemment. Mais il faut comparer ça à la réalité. Et la réalité, c'est que c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à un afflux de capitaux étrangers dans un pays en développement, quels sont les critères pour s'assurer qu'on est dans un cadre de développement? Donc il faut que ça réponde à des besoins spécifiques de la population. Il faut que ça puisse permettre aux entreprises locales de se développer, de développer une expertise, un savoir-faire. Donc il faut qu'il y ait un transfert d'expertise et de savoir-faire de l'entreprise étrangère vers les entreprises locales. Il faut s'assurer que les profits, lorsque les profits seront faits, restent dans le pays et non pas repartent pas dans le pays d'origine de l'entrepreneur étranger. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les profits ne restent pas. C'est une vraie passoire. Donc, il n'y a pas de pénétration, si vous voulez, de l'investissement étranger dans l'économie locale. Donc, nous, qu'est-ce qu'on demande? On demande encore une fois, se réfléchir, d'avoir une approche systémique sur les PPP, et non pas essayer de parler de bonne gouvernance ou d'essayer de cadrer ces choses-là dans des contrats qui sont extrêmement longs et compliqués, mais de réfléchir au principe même de PPP en premier lieu. Est-ce que c'est la solution pour le développement local? Je dis pas que ce n'est pas toujours la solution, mais est-ce que c'est la solution de manière systématique? Il faut que l'État reprenne la main.
Karine Staropoli, on a déjà examiné cette question quand on parlait de ce qui se passe en Europe, où la puissance publique a peut-être le moyen de contrôler ces grandes entreprises que vous qualifiez tout à l'heure d'oligopolistiques. Mais est-ce que dans les pays africains, en l'occurrence, les États qu'on sait plus faibles ont les compétences pour contrôler ces grands travaux?
Il y a d'abord un problème d'attractivité, c'est-à-dire que ces États-là, dans lesquels il y a un certain nombre de risques institutionnels, doivent pouvoir attirer ces investisseurs et ces entreprises sur leur territoire et qu'elles puissent s'impliquer. Donc il y a déjà un problème de savoir si, quand elles lancent un appel d'offres, ces entreprises-là vont être au rendez-vous. Il y a un certain nombre d'expériences dans les pays africains, mais aussi qui ont été beaucoup renseignées dans les pays d'Amérique latine, où il y a eu beaucoup de déconvenues et les grands opérateurs occidentaux sont revenus assez plein de désillusions vis-à-vis de ce type de business. Donc la Banque mondiale a beaucoup travaillé sur ces sujets-là avec l'identification d'indices de risque pays et qui sont là pour montrer que effectivement, quand on parle de ces puissances publiques-là, il faut être particulièrement vigilant sur leur capacité à définir leurs besoins et puis à contrôler et à savoir ce qu'elles vont sur la longueur.
Asiba Djemaoun.
Oui. Alors, effectivement, l'Agence française de développement accompagne les financements de projets des pays de nos interventions par du renforcement de capacités. Et ce sujet est très important pour nous, renforcer les capacités des maîtrises d'ouvrage public à pouvoir maîtriser s'approprier un outil qui est effectivement complexe, complexe à mettre en place, complexe à suivre. Mais nous pensons que accompagner les maîtrises d'ouvrage à mettre en place des PPP conformément aux bonnes pratiques internationales, c'est une manière responsable pour nous également de financer des projets en infrastructure.
Karis Taropoli, vous parliez à l'instant de l'Amérique latine avec un retour d'expérience plutôt négatif sur ce continent. Alors on va y aller. Le Chili arrive régulièrement en tête des classements les plus favorables aux partenariats publics-privés en Amérique du Sud depuis le début des années 90. Des routes, des ports, des aéroports ou encore des infrastructures électriques ont été financées par ce biais. Des hôpitaux aussi, plus récemment, pour parer au manque d'infrastructures de santé au Chili. 3 hôpitaux ont été construits via des partenariats publics-privés. 2 autres sont en construction. C'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Justine Fontaine à Santiago du Chili.
À quelques stations de métro du centre de Santiago, un énorme chantier est en cours, celui du nouvel hôpital El Salvador, dont les travaux doivent durer jusqu'en 2024. Casque sur la tête, le ministre des Travaux publics, Juan Andrés Fontaine, visite le site. Il explique pourquoi il défend les partenariats
publics-privés.
Un hôpital est un investissement important qui implique un effort budgétaire conséquent pour l'État. Et grâce à ce dispositif, cet effort est étalé dans le temps. On économise des fonds publics et on fait appel aux capacités du secteur privé pour construire et entretenir les infrastructures en question.
Selon le gouvernement, 18 appels d'offres seront lancés dans les prochains mois pour construire des hôpitaux via d'autres partenariats publics-privés à travers tout le pays. Le docteur Marcos Vergara est le directeur de l'hôpital public San Borja à Santiago. Il a étudié la question des investissements dans le domaine de la santé publique et sur le principe, il est favorable aux partenariats publics-privés pour faire face au manque d'hôpitaux dans le pays.
Je trouve que c'est une bonne option pour l'État chilien. Cela permet de trouver des sources de financement pour réaliser plus rapidement des investissements qui n'auraient pas pu avoir lieu à ce moment-là si on avait eu recours uniquement à des fonds publics.
Deberían ser postergadas en el tiempo.
L'hôpital de Maipú, en banlieue de Santiago, est l'un des deux premiers à avoir été construit via un partenariat public-privé au Chili en 2014. Et l'entreprise qui a mené le chantier administre aussi divers services comme la sécurité, la fourniture de repas ou encore une crèche pour les enfants des employés. Mais le personnel de l'hôpital est assez critique concernant la manière dont le projet a été mené. Patricia Yáñez est infirmière chef et délégué du syndicat FENPROS.
Comme il s'agissait d'un nouveau modèle, on s'est rendu compte que certaines erreurs avaient été faites au départ, qu'il fallait changer des choses. Mais le contrat avec l'entreprise s'étale sur 15 ans. Et face à un problème, il y a trop d'intermédiaires, cela ne permet pas de trouver des solutions rapides face aux difficultés qu'on peut rencontrer, nous et les patients, au quotidien.
Malgré tout, elle estime que cette expérience a été prise en compte dans les projets en cours de construction aujourd'hui.
Un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs signé Justine Fontaine à Santiago du Chili. Alors on rencontre les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, que ce soit à Dakar, à Paris ou à Santiago. Plus généralement, est-ce que ces partenariats public-privé sont le relais d'une aide au développement qui se tarirait par manque de finances dans les grands pays développés et qui hésiterait maintenant à placer leur bille dans des économies émergentes à Sibadje Maoun? Est-ce que les partenariats public-privé, c'est une autre forme d'investissement des pays développés dans les pays en développement?
Les partenariats public-privé sont un mode de financement des infrastructures. Les banques de développement, telles que l'Agence française de développement,
qui fait du partenariat public-privé,
qui accompagne et qui accompagne la réalisation d'ouvrages financés en partenariat public-privé. En effet, parce que nous croyons...
Accompagner, ça veut dire quoi?
Accompagner, ça veut dire à la fois financer, contribuer au financement de ces projets, et c'est accompagner en faisant du renforcement de capacité.
Séverine Picard, vous, est-ce que vous pensez que ces partenariats publics-privés peuvent aider réellement au développement des pays émergents, des pays du tiers-monde?
Ils devraient, mais c'est pas comme ça que la réalité se passe. La réalité, c'est on est dans une politique d'investissement qui favorise les investissements les investisseurs étrangers au détriment du développement local. Donc ça devrait favoriser le développement, mais il ne faut absolument pas considérer les PPP comme un substitut à un plan général de lutte contre la pauvreté ou pour le développement. Ça n'est pas le cas. L'un n'est pas la même chose que l'autre.
Ça ne peut pas aider à la réalisation des objectifs de développement durable qui ont été déterminés par les Nations Unies.
Ça devrait, c'est ça que je dis. Mais il faut se reposer complètement la question de la manière dont c'est fait. C'est-à-dire que le financement, je vais me répéter, mais le mode de fonctionnement de ces PPP doivent être évalués en fonction de critères qui permettent d'indiquer s'il y a un développement effectif. C'est-à-dire, est-ce que les profits restent dans l'économie locale? Est-ce que l'économie locale monte dans la chaîne de valeur, etc. Ça n'est pas le cas dans la plupart des PPP aujourd'hui.
Karine Staropoli, est-ce que je vous pose la même question qu'à nos deux autres interlocutrices? Est-ce que ces partenariats publics sont une alternative au financement, à l'aide publique au développement?
Je pense que c'est un des outils, effectivement, et qu'il faut être encore plus vigilant quand ce type d'outil est choisi sur notamment la rigidité des contrats. On sait que c'est des pays où il faut faire face à une certaine incertitude, et donc il faut avoir la possibilité d'avoir des contrats peut-être plus flexibles pour pouvoir faire face à ces...
Qu'est-ce que vous appelez les contrats plus flexibles?
Des contrats qui peuvent être typiquement avec des clauses de revoyure plus régulières pour pouvoir adapter au contexte du projet qui, pour des raisons diverses et variées, peut être amené à évoluer. Donc tenir compte de ce contexte-là particulier.
Séverine Picard, je vous vois hocher la tête en signe de non.
Oui, je pense qu'il faut sortir de ce concept étroit des PPP, de regarder à des concepts beaucoup plus larges tels que la fiscalité pour remplir les caisses de l'État de ces pays en voie de développement. Il y a un problème de fiscalité, les multinationales qui ne payent pas leurs impôts là où elles devraient les payer, et un problème de fuite des capitaux étrangers. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus général, un problème plus systémique auquel le PPP ne peut pas répondre en tant que tel.
Sibadje Maoun, une dernière intervention pour clôturer cette émission, pour la conclure.
Peut-être dire que le PPP, c'est un outil de développement qui est complété par les aides au développement. Ça doit être une solution durable et inclusive. Il faut s'attacher à ce que ces outils puissent prendre en compte ces enjeux environnementaux, sociaux, prendre en compte les enjeux du climat, et bien préparer, avec des maîtrises d'ouvrage renforcées. C'est notre pari de faire donc de cet outil un outil, encore une fois, durable et inclusif pour le développement des pays de nos interventions.
Merci à Sibadje Maoun, merci Karine Staropoli, merci Séverine Picard, merci mesdames. Éco d'ici, Éco d'ailleurs est donc terminé. Vous pouvez nous réécouter sur le site internet rfi.fr ou sur votre téléphone portable via l'application Pure Radio à l'onglet émission. La semaine prochaine, une rediffusion, et je vous retrouve dans deux semaines pour de nouvelles aventures économiques.